Claire Joseph a assuré la mise en onde. Eric.
Bonjour et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous. D'abord, les nouvelles du monde. Les pays voisins du Mali et membres de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire ont réclamé hier jeudi le rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État et décidé d'envoyer une délégation à Bamako en vue d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Dans un instant, nous retrouverons nos correspondants sur place. Ici aux États-Unis, l'ancien vice-président de Barack Obama, âgé de 77 ans, Joe Biden, a accepté formellement l'investiture du Parti démocrate depuis sa ville de Wilmington dans le Delaware. Il a promis de tourner la page de la peur et des divisions et s'est engagé à surmonter, je cite, « cette époque sombre en Amérique ». Ici et maintenant, je vous le promets, si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière et pas des ténèbres, a ajouté le candidat démocrate en promettant de défendre les droits humains et la dignité. Joe Biden a tenu ses propos lors de son discours de clôture de la convention d'investiture démocrate pour l'élection présidentielle contre le président Donald Trump le 3 novembre. Depuis la petite ville de Pennsylvanie, le président Trump a affirmé que Joe Biden serait le pire cauchemar des Américains, dressant un tableau apocalyptique de son éventuelle présidence. La candidate à la vice-présidence, la sénatrice Kamala Harris, a dénoncé dans son propre discours d'investiture mercredi le chaos permanent, l'incompétence et la cruauté de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Mercredi soir, le réquisitoire de Barack Obama contre son successeur fut le plus sévère qu'il ait prononcé en 4 ans. À cause de la pandémie, la convention démocrate s'est tenue entièrement en ligne cette année, sous un format rythmé de 2 heures par soir. La convention du Parti républicain, largement virtuelle, aura lieu la semaine prochaine. Le président Trump prononcera son discours jeudi soir depuis la Maison-Blanche. Steve Bannon, ex-conseiller du président Trump, a été inculpé et arrêté hier jeudi pour fraude et blanchiment d'argent. Il aurait détourné des centaines de milliers de dollars pour des dépenses personnelles, alors que l'argent était destiné à soutenir le projet de la présidence Trump pour ériger un mur à la frontière mexicaine. Steve Bannon a plaidé non coupable devant un juge fédéral de Manhattan. Il est sorti environ 2 heures plus tard du tribunal, moyennant 5 millions de dollars de caution. Les États-Unis ont formellement activé jeudi à l'ONU une procédure controversée pour réclamer le rétablissement dans 30 jours des sanctions internationales contre l'Iran, mais se sont immédiatement heurtés au refus catégorique de leurs alliés européens et des autres grandes puissances. Les États-Unis ont cessé d'être un participant lors de leur retrait de l'accord le 8 mai 2018, ont réagi Paris, Berlin et Londres dans un communiqué commun. La notification américaine est nulle et non avenue, a tranché sur Twitter le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Il dit que la pandémie de COVID-19 pouvait être gérée en Europe sans verrouiller à nouveau la société. La Banque mondiale a averti de son côté que la crise pourrait faire basculer 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. L'OMS et l'UNICEF ont également appelé les gouvernements africains à favoriser la réouverture des écoles fermées depuis près de 6 mois en prenant des mesures pour éviter la propagation du virus. Les chiffres de nouveaux cas de contamination à 24 heures publiés hier en France, en Italie, en Allemagne ou encore en Espagne sont inquiétants et montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements. Le saxophoniste Al Singer, figure du jazz américain qui a joué avec Ray Charles et Billie Holiday, est décédé mardi à 100 ans en région parisienne, annoncé hier jeudi la mairie de Château-Yvelines où le musicien résidait depuis 20 ans. Ses tournées internationales l'ont amené en Amérique latine, en Afrique et en Asie, après avoir écumé les salles de concert américaines en compagnie des plus grands comme Ray Charles. L'inhumation aura lieu demain samedi matin dans la plus stricte intimité. Restez branchés sur votre fréquence pour la suite du monde aujourd'hui. C'était Eric Manirakiza. avec vous.
Eric Manelakiza de retour avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Les dirigeants de la CEDEAO étaient réunis en sommet virtuel hier jeudi, trois jours après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, toujours aux mains des militaires putschistes. Le sommet a décidé de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Suivez Mahamadou Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO.
Nous condamnons avec fermeté les menaces et les pressions ainsi que les manipulations effectuées par les militaires putschistes sur le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le contraindre à annoncer une démission contre son gré. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative de renversement par des militaires putschistes du gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous dénions catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigeons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels arrêtés. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous décidons de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, financières et commerciales, à l'exception des denrées de première nécessité. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Nous décidons de demeurer saisi de la situation au Mali.
À Bamako, c'est plutôt la mise à l'agenda des putschistes. Le porte-parole de la junte, Ismaël Ouagé, a indiqué qu'un président de la transition allait être mis en place, un militaire ou un civil. Le mouvement du 5 juin M5, une coalition hétéroclite d'opposants politiques, de religieux et de membres de la société civile, compte organiser aujourd'hui de grands rassemblements pour fêter la victoire du peuple malien. La junte a par ailleurs annoncé jeudi soir dans un communiqué la réouverture des frontières aériennes et terrestres à compter de ce vendredi 21 août à 0h. À l'ouverture du sommet de la CEDEAO, le président Issoufou avait rappelé qu'en 2012, un précédent coup d'état militaire à Bamako avait permis à des groupes islamistes armés d'occuper pendant plusieurs semaines les deux tiers du territoire malien. L'armée nigériane a affirmé hier jeudi avoir repris le contrôle total d'une ville du nord-est du pays. Des djihadistes y ont pris en otage mardi des centaines de personnes. Claire Morégibourg pour les détails.
Selon le ministère de la Défense, les terroristes ont attaqué la position des troupes à Kukawa, dans l'état de Borno, mais ils ont été vigoureusement repoussés. Trois soldats nigérians ont été tués et deux blessés lors de ces combats et huit djihadistes auraient été tués. Toujours selon l'armée, les troupes ont désormais le contrôle total de la ville et la situation à Kukawa est désormais calme. L'attaque de ces terroristes constitue une tentative délibérée de contrer les réussites obtenues dans la région à l'égard du retour des déplacés, a estimé le porte-parole du ministère de la Défense. Mardi, des combattants présumés du groupe djihadiste ISWAP ont pris en otage des centaines de civils dans la ville de Kukawa, près du lac Tchad. Ces habitants venaient tout juste de regagner leur domicile après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés en raison des violences qui ravagent la région du lac Tchad depuis 2009.
À Madagascar, le ministre de la Santé a été remercié jeudi après un remaniement du gouvernement. Il était critiqué par ses pairs pour s'être publiquement inquiété de la progression de la pandémie de coronavirus dans le pays. Abdulrahman Dia.
Le départ d'Ahmad Ahmad a été annoncé par le secrétaire général de la présidence à l'issue d'un conseil des ministres dirigé par le président Angela Jouel. Il a été remplacé par le professeur Jean-Louis Anitrala Rakotowa. Ça a suscité le courroux de ses collègues et du chef de l'État le mois dernier en s'alarmant de flambées épidémiques importantes de COVID-19 dans quelques régions, dont celle de la capitale Antananarivo. Dans un courrier rendu public, il avait même lancé une requête urgente aux partenaires de Madagascar pour la fourniture de respirateurs et de matériel de protection pour les soignants. Le gouvernement avait immédiatement réagi, se disant consterné par l'attitude du ministre et dénonçant une initiative personnelle. L'épidémie est officiellement sous contrôle dans le pays. Le président Rajoel vante depuis des mois les vertus d'une potion locale à base d'artémisia contre le coronavirus. Mais l'efficacité de ce breuvage baptisé Covid organique n'a pour l'heure pas été prouvée scientifiquement.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique de ce matin, retrouvez John Linda.
La filiale Côte d'Ivoire du groupe MTN se porte bien selon son directeur général Dibril Ouattara. L'opérateur a enregistré en 2019 une hausse des abonnés qui sont maintenant à 12,5 millions. La base d'utilisateurs de Mobile Money a augmenté de 40% pour atteindre les 4 millions. MTN Côte d'Ivoire envisage pour l'année prochaine des investissements de 30 à 40 milliards de francs CFA pour moderniser son réseau avec une couverture plus étendue. Marafone, le fabricant de smartphones basé au Rwanda, a lancé jeudi la distribution de ses smartphones à Ouagadougou, au Burkina Faso. La firme confirme aussi son projet d'usine au Nigeria après celle d'Afrique du Sud. Ce lancement est le fruit d'un partenariat avec Focus Tech on Energy, un fournisseur de produits de haute technologie au Burkina Faso. L'homme derrière ce projet n'est autre que Ashitakar, l'omania britannique d'origine indienne aux attaches ougandaises et qui, depuis quelques années, s'est naturalisé rwandais. Les entreprises de crypto-monnaies se portent bien selon les données présentées par buyshare.co.nz. Le montant total du financement des entreprises de crypto levé au fil du temps a atteint 12,5 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020, soit un bond de 155% en deux ans. L'Amérique du Nord représente la première région avec 6,2 milliards de dollars d'investissement. Les entreprises asiatiques suivent avec 3,5 milliards de dollars.
Et je vous conseille maintenant d'augmenter votre volume pour suivre la dernière de l'actualité sportive. À toi, Yacouba.
Bonjour à tous, Hugo Fabrice Zango, de nouveau sous les projecteurs au meeting de Zekes Ferevar en Hongrie. Le Burkinabé a su classer le triple saut devant ses principaux rivaux, réalisant un saut de 17,43 m, soit la meilleure performance de l'année. Il a devancé l'Américain Christian Teulo, 17,34 m, et le Portugais Pablo Pichardo, 17,28 m. La Béninoise Noeli Yarigo s'est aussi illustrée en remportant le 800 m en 2 minutes. L'athlète de 34 ans a devancé la Polonaise Sofia Enawi et la Britannique Laura Muir. Football, Liverpool, des Africains Sadio Mané, Naby Keita, Joël Matip et Mohamed Salah démarrera la défense de son premier titre en 30 ans en recevant le promu Leeds le samedi 12 septembre. Selon le calendrier publié par la Premier League, ce choc de style entre deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa, sera l'affiche d'une première journée disputée à huis clos. Parmi les autres matchs alléchants de la première journée, Tottenham-Everton offrira un autre duel entre technicien réputé José Mourinho et Carlo Ancelotti. Le champion en titre se déplacera à Chelsea lors de la deuxième journée, recevra Arsenal pour la troisième journée, puis jouera le derby à Everton pour la cinquième journée. Ici, aux États-Unis, le président des Toronto Raptors, Masai Ujiri, d'origine nigériane, a porté plainte devant le tribunal d'Oakland en Californie contre un shérif adjoint. Il accuse d'être à l'origine de leur altercation juste après le sacre de son équipe sur le parquet de Golden State en juin 2019. Sur un enregistrement vidéo, on voit Ujiri tenter de se frayer un chemin vers le parquet de l'Oracle Arena pour rejoindre les joueurs des Raptors pour célébrer le titre avec eux. À ce moment-là, le shérif adjoint Alan Strickland l'attrape par sa veste, le repousse et lui crie de reculer alors que le dirigeant des Raptors essaye de lui montrer son laissez-passer. Après un échange de mots, Ujiri, bien que brandissant ses accréditations, est de nouveau repoussé avant de lui-même repousser l'adjoint du shérif en lui martelant qu'il est le président des Raptors.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour développer les dossiers du jour. Au Mali, l'opposition hétéroclite regroupée au sein du mouvement du 5 juin va publiquement apporter cet après-midi son soutien à la junte. Le M5 s'est dit prêt à élaborer avec la junte une transition politique en vue de sauver ce qui reste du Mali. Dokati, la correspondance de la Missa Sangaré.
Pour les M5, le rassemblement de ce vendredi est d'une grande importance. Adama Ben Diarra, membre de la jeunesse du M5, explique que le mouvement d'opposition souhaite tout d'abord entrer en contact avec la junte.
Le M5 a déjà fait un document par rapport à la transition politique et démocratique. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons rentrer en contact avec les CNSP pour réfléchir ensemble autour du document et sortir une stratégie commune ensemble qui peut tenir debout le Mali.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact d'abord?
Non, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact.
Une fois ces contacts établis, le M5 a prévu de s'attaquer au problème de façon prioritaire. Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, membre du M5.
Pour nous, les mots sont connus, il faut trouver les solutions. C'est de résoudre la question constitutionnelle et institutionnelle et aussi d'être en phase avec l'accord d'Alger et créer les conditions de retour d'une discussion apaisée avec le Front social, notamment les syndicats, et tout en essayant aussi de donner une ligne, c'est-à-dire une sorte de feuille de route qui va gérer cette transition démocratique et permettra vraiment très rapidement de trouver un pouvoir légal et légitime avec l'adhésion du peuple malien et l'accompagnement de la communauté internationale.
Issa Kaoudjim qualifie les menaces de la CEDEAO de chantage et l'invite à revoir sa position dans l'intérêt de tous.
Autant le Mali a besoin de la CEDEAO, autant la CEDEAO ne peut pas s'imposer au Mali. Parce que si le Mali s'écroule, mais c'est tous ces pays-là qui vont s'écrouler, il faut arrêter ces menaces-là. Vous avez des forces ici, notamment les Barkhane, les Minusma, mais ils vivent ici. Ils boivent ici, ils mangent ici, ils dorment ici. Il faut arrêter de nous faire chanter avec ça. Maintenant, venir nous aider, nous accompagner, on est d'accord. Il faut aller dans une lecture globale plus souple.
En attendant que ces rassemblements du M5 décrisent pour pas les clivages sociopolitiques, c'est la méfiance de tous les côtés. Hier, le CNSP a publié un communiqué pour demander aux personnes se disant de bonne volonté d'arrêter de leur envoyer différents articles et autres biens matériels et financiers au nom d'un quelconque appui. Lamissa Sangaré, Kati, pour VOA Afrique.
Trois jours après la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta, toujours détenu par des putschistes à la garnison militaire de Kati, en banlieue de Bamako, la vie a repris son cours normal ce jeudi matin. Les Maliens ont suivi l'appel du Comité national pour le salut du peuple, l'organe des putschistes. Mais la reprise a été impossible dans certains services, notamment à la direction du budget du ministère de l'économie et des finances de la capitale malienne. Le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Les activités ont repris timidement à Bamako. L'administration publique a repris sans problème, mais dans le privé, ça n'a pas été facile, comme dans cette station d'essence.
Après la journée de mardi, comme vous-même vous pouvez le constater, on a eu énormément de dégâts sur cette station, où elle est située dans la zone de Hamdalaï. La station a été totalement saccagée. Vous voyez, on n'a plus de pompes sur la station. Les pompes qui sont là pour servir les clients ne sont plus ici. La boutique qui était là aussi a été totalement saccagée. Donc ça, c'est des pertes, non seulement en matériel, mais des pertes d'emploi.
Au grand marché de Bamako, des boutiques ont été pillées, des magasins vidés de leurs marchandises. Cheikh Oumar Sako, président de commerçants détaillants.
Dans les cas de ce genre, il y a beaucoup de banditismes qui vont se profiter. Donc en ce moment, c'est pour ça, chaque fois, moi, je dis que s'il n'y a pas un apaisement, c'est les opérateurs économiques qui sont les plus perdants. Et nous lançons à l'appel ceux qui ont le contrôle aujourd'hui. Il faut qu'ils se réveillent le marché.
Dans les rues, Plusieurs Bamakois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les taxis et autres transports en commun étaient dans la circulation.
J'étais venu ici ce matin vers 8h. On a trouvé que la ville est calme. Donc nous, on a regardé partout en voir qu'il n'y a pas de problème.
Le pays a déjà trop souffert avant l'avènement du changement. Ce changement est l'aboutissement d'une lutte de longue haleine. Donc, c'est tout le monde doit faire en sorte maintenant de travailler de concert pour qu'il y ait la paix et la concorde entre les Maliens.
Une élection transparente, une élection peut-être pour la première fois depuis 1991 que vraiment on fasse preuve de plus de transparence et que personne ne remette en cause les résultats de ces élections-là.
La reprise des activités a été bénéfique pour certains hommes politiques qui ont donné leur avis sur le coup d'État du 18 août dernier. Dr Bokari Treta, président du RPM.
Les événements auxquels nous avons participé ont été pour nous tragiques. Et c'est pourquoi le Rassemblement pour le Mali condamne avec la dernière énergie le coup d'État, l'accession par les voies non constitutionnelles au pouvoir. Dans le propos du Conseil national pour le salut du peuple, nous avons entendu des choses qui peuvent encourager à la réflexion dans la perspective de sortie de crise. Nous avons eu le sentiment qu'il viendrait pour mettre les Maliennes et les Maliens ensemble pour se mettre d'accord autour des voies de sortie de crise.
De façon globale, on peut dire que la reprise est effective à Bamako, mais avec un goût d'inachevé pour les noctambules qui doivent rentrer à partir de 21h, cela à cause du couvre-feu décrété par le Comité national pour le salut du peuple. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les autorités ont suspendu hier jeudi les manifestations publiques jusqu'au 15 septembre. Des femmes de l'opposition ont prévu demain samedi une marche contre un troisième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Cette interdiction survient près d'une semaine après des manifestations violentes liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour son troisième mandat. Pour en parler, Bagassi Koura a joint à Abidjan le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma.
Par principe, toutes les mesures restrictives pour nous sont considérées comme des mesures certes liberticides. Nous pouvons comprendre à partir de ce qui s'est passé il y a ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Je pense notamment à Benoît, je pense à Daoukro, je pense à ce qui s'est passé dans communes de Yopougo, d'Adjamé, etc.
Vous parlez des affrontements entre les manifestants, des camps du pouvoir et de l'opposition.
Des manifestations qui ont débouché sur des actes de violence.
Oui.
Et même à des morts d'hommes. J'ai dit, je comprends cela, qui peut amener l'État, le gouvernement à prendre des mesures restrictives, que je considère par principe comme des mesures liberticides. Et c'est vrai, nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous nous battons tous les jours pour que le droit de manifester, le droit d'exprimer son opinion, le droit à la différence soit respecté. Ça, c'est notre combat de tous les jours. Mais c'est vrai, si nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous sommes aussi des éducateurs en droits de l'homme. Droit et devoir à notre, pour notre part vont de pair. Si on a le droit de manifester, d'exprimer son opinion, mais tout cela se fait dans le cadre de la loi. Et j'estime que ceux qui demandent à marcher, ceux qui demandent à manifester, doivent aussi faire l'effort de se conformer, n'est-ce pas, à ces règles.
Vous comprenez donc cette décision de suspendre les manifestations?
Oui, l'objectif c'est de préserver, de faire en sorte que le climat social soit apaisé, parce que ce qui s'est passé il y a quelques jours est quand même effrayant. Je comprends le souci de un qui prend ces mesures, considéré comme par principe comme des justices libertines, mais qui participe, je pense, aussi à prévenir toutes les actions de violence, toutes les actions qui peuvent porter atteinte à la cohésion sociale.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'il faut laisser tranquille les libertés démocratiques pour que les gens puissent s'exprimer?
Mais je parle comme le philosophe, liberté et responsabilité vont de pair. Votre liberté aussi, quand on veut exprimer sa liberté, c'est un droit certes, mais il faut aussi intégrer la dimension responsabilité. Si votre liberté, vos droits vont à l'encontre de de l'intérêt général, de la cohésion sociale. Je pense qu'il faut réfléchir deux fois. La responsabilité, c'est répondre de soi, aussi répondre des autres.
Mahamadou Kouma, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
L'ONG américaine anticorruption Sentry, cofondée par l'acteur américain George Clooney, a appelé mercredi les autorités congolaises à annuler des contrats signés avec une entreprise détenue par des ressortissants nord-coréens en République démocratique du Congo. L'ONG estime qu'il contourne des sanctions internationales. Eddie Isango, adjoint à Washington, le chercheur principal de Sentry, John Del Oso.
On a trouvé une société qui s'est implantée en RDC en 2018, qui a été établie par deux Nord-Coréens, a réussi à ouvrir un compte en dollars à la banque Afriland First Bank, plus précisément à la succursale à Lubumbashi. Et puis, ils ont érigé deux statues dans la province de Lomami, dans la capitale Kamina. En fait, ces deux projets de statues ont été financés totalement par le gouvernement provincial qui, à l'époque, avait comme gouverneur M. Jackson Kalenga Mwenzeni. Et en fait, le simple fait que la société qui a été établie par les Coréenne du Nord a réussi à obtenir l'accès à un compte en dollars constitue une violation de plusieurs régimes de sanctions, y inclus onusiennes, américaines et européennes. Et puis, le fait que le gouvernement provincial de Lomami a financé ses projets avec les fonds d'État constitue aussi une violation des sanctions onusiennes, en fait. Et donc, ça soulève beaucoup de questions qui sont bien troublantes par rapport à l'application des sanctions qui visent la Corée du Nord en RDC, soit par les autorités gouvernementales, soit par les banques et les autres institutions privées.
Il s'agit là bien d'une entreprise privée avec deux ressortissants de la Corée du Nord. Vous voulez dire que la Corée du Nord est en soi impliquée dans les transactions?
Oui, tout à fait. En fait, on a parlé avec plusieurs experts sur la Corée du Nord. Ce qu'on a trouvé, c'est que l'idée d'un homme d'affaires privé n'existe pas vraiment en Corée du Nord. C'est un état où même d'obtenir un passeport est très très difficile. Et ça implique au moins qu'on a un lien opérationnel avec le gouvernement nord-coréen. Et donc si un soi-disant homme d'affaires nord-coréen voyage à l'extérieur pour générer des revenus, ça implique qu'au moins une partie de ces fonds vont être envoyés jusqu'à Pyongyang. On a vu aussi que ces deux hommes d'affaires ont détenu des passeports officiel. Et donc, ça implique, selon les rapports de l'ONU sur la Corée du Nord, qu'ils avaient un lien avec le gouvernement, peut-être par une société étatique. Le plus grand problème avec ça, c'est que si les hommes d'affaires, les soi-disant hommes d'affaires nord-coréennes, ont pu générer les revenus, ils ont établi un compte bancaire, ça les aurait permis, comme j'ai dit, d'envoyer les fonds jusqu'à Pyongyang. Ou Pyongyang aurait pu financer ses projets prioritaires.
John Del Oso, chercheur principal de The Sentry.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition du vendredi 21 août 2020. Ici va le monde aujourd'hui. Chaque vie individuelle a un sens et bien sûr donnée par celui qui vit cette vie. Michel Claire Joseph a